Puisque apparemment le Québec n'est pas en austérité, on va plutôt parler de rigueur budgétaire qui entraîne des coupures ou des gels de programmes sur le quotidien des personnes en situation de handicap. Pour nous en parler davantage, on joint au bout du fil Alexandra Damour, agente de défense des droits en habitation, santé et services sociaux chez Execo. Bonjour, Madame Damour.
Bonjour.
Donc, cette rigueur budgétaire, on peut déjà voir des impacts des réformes qui ont lieu en ce moment sur le quotidien des personnes en situation de handicap.
Oui, effectivement. En fait, il y en aurait beaucoup, beaucoup à dire, mais comme on a seulement 10 minutes, j'aimerais me limiter à un ou deux sujets maximum, soit santé et services sociaux, surtout sous l'angle des services à domicile, et le manque de logements accessibles et adaptables, bien sûr.
Oui, donc qu'en est-il au niveau des coupures dans le soutien à domicile?
Au niveau du service à domicile, en fait, pour nos membres, on sait que présentement, sur l'île de Montréal, on assiste à une révision des grilles de services qui sont offerts. C'est comme ça partout au Québec, mais à Montréal également. Donc, au cours de l'année 2014 et 2015, chez Execo, on a enregistré une trentaine d'appels de dénonciation et de réduction des heures de service à domicile. Donc, ces dénonciations-là portaient surtout sur la coupe de l'aide à la préparation au repas. Donc, on enlève la préparation des repas du panier de service des CLSC pour les personnes ayant une déficience plus légère, en fait. Aussi, on a des dénonciations en l'effet que les usagers sont demandés par leurs intervenants de choisir entre l'aide à la préparation des repas ou le ménage. Donc, le CLSC offre seulement un des deux services, donc pas les deux. Donc, si les usagers veulent maintenir les deux services, ils doivent payer pour l'un ou l'autre des services et se tourner vers une entreprise d'économie sociale.
Et juste pour clarifier, peut-être pour les gens qui nous écoutent, ces soutiens, justement, ces grilles de services, ça inclut plusieurs services. Vous avez mentionné l'aide à la préparation au repas,
oui,
notamment, et le ménage, mais il y a aussi d'autres volets qui sont inclus.
Oui, c'est ça. L'aide à la préparation au repas et l'aide au ménage, en fait, ça fait partie de ce qu'ils appellent dans le jargon de santé et services sociaux, c'est les aides à la vie domestique. Quotidienne, mais on a également les aides à la vie domestique qui sont, bon, par exemple, des soins plus invasifs, par exemple, donner des bains ou aider à tout autre soin corporel que la personne pourrait nécessiter.
OK. Et donc, justement, il y a eu des dénonciations, entre autres pour ce qui est de la réduction des heures qui sont allouées à la préparation des repas. Tout de même, se nourrir, me semble que c'est une activité importante.
Mais en fait, c'est un besoin primaire, là, donc on comprend mal un peu le pourquoi, en fait, il y a une réduction de services à ce niveau-là. Mais toujours est-il que c'est pour ça qu'on le dénonce aussi, puis c'est pour ça qu'on vous en parle aujourd'hui aussi à la radio.
Qu'est-ce qui se passe, justement, lorsque ces heures sont coupées? Concrètement, pour quelqu'un qui les recevait et qui avait besoin de ce soutien-là, qu'est-ce qui se passe après? Qu'est-ce qu'on fait?
Bien, en fait, le CLSC va tourner les personnes vers soi. Comme je disais, plutôt des entreprises d'économie sociale qui, eux, offrent des services d'aide à la vie quotidienne, donc l'aide à la préparation des repas. Ils vont offrir ce service-là à la condition que la personne défraie certains coûts. Même s'il y a un programme, je dirais, comme ils appellent, d'exonération financière, donc qui va payer une partie des services, bien les personnes en situation de handicap, ça reste qu'ils doivent payer, défrayer là, les coûts que l'exonération financière ne payera pas.
Est-ce que c'est une certaine forme de privatisation de services?
Pour Execo, c'est clairement une forme de privatisation, oui, déguisée, en fait, là, vers des entreprises d'économie sociale.
Et donc, ça a un impact aussi sur l'aspect financier des personnes en situation de handicap, sachant qu'elles font partie du groupe le plus pauvre au Canada. Donc, ça ajoute un fardeau de plus aux personnes.
Puis je dirais là que c'est le fardeau économique peut être plus ou moins grand, mais c'est environ de 50 $ ou plus par mois là. Oui. Donc, quand tu gagnes simplement 937 $ par mois parce que tu es sur le programme d'aide sociale contrat sévère à l'emploi, bien, 50 $ par mois, c'est beaucoup.
Oui, ça rentre. C'est une nouvelle considération
oui.
À prendre. En ce qui a trait aux coupures dans les programmes d'habitation, c'est quoi les répercussions?
Bien, en fait, on dénote un manque de logements accessibles et adaptables, ça c'est sûr. Dernièrement, je ne sais pas si vous en avez eu connaissance, en 2015, le directeur exécutif de ONU Habitat a déclaré dans son rapport intitulé « Le droit au logement suffisant pour les personnes en situation de handicap habitant dans les villes », il a déclaré qu'il manquait clairement d'habitations abordables, non seulement financièrement, mais accessibles et adaptables au niveau architectural pour les personnes en situation de handicap. Ça, c'est vrai à l'échelle mondiale, mais c'est également vrai au Québec. Parce que présentement, on a un programme avec la Société d'habitation du Québec qui s'appelle le programme Accès Logis, qui est présentement le seul programme qui permet la construction de nouvelles unités de logements sociaux et abordables et qui permet aussi d'augmenter l'offre de logements accessibles et adaptables au niveau architectural pour les personnes en situation de handicap.
Qu'est-ce que ça implique, justement, au niveau architectural? Qu'est-ce qu'on doit retrouver pour qu'un logement puisse être considéré accessible et adaptable?
Bien, accessible, en fait, il y a des critères de visitabilité, bien sûr. Donc, on pourrait dire un plancher, en fait au niveau...
De plein pied?
De plein pied, oui, c'est ça, excusez-moi. Un plancher de plein pied, des portes plus larges, ça pourrait être des armoires amovibles, ça peut être aussi des poignées de porte en L, ça peut être bon des fenêtres plus basses à manivelle pour faciliter en fait l'ouverture, la fermeture des fenêtres.
Mm-hmm. Oui. Et donc, ce type d'habitation-là est menacé.
Et manquant.
Et manquant.
Oui,
et
manquant. Manquant, malheureusement. Et puis, bon, c'est ça, on le sait qu'au dernier budget, le programme, ben l'avenir du programme Accès Logis était un peu en péril. Là. On nous avait offert, en fait, 3000 unités Accès Logis, mais on en a obtenu seulement 1500 partout au Québec, donc dont 550 à Montréal. Donc, le gouvernement, à la place, a décidé de choisir de se tourner vers le programme de supplément au loyer qui, lui, bon, aide les familles plus démunies pour leur permettre de payer seulement 25 % de leurs revenus dans les logements qu'ils habitent déjà. Donc, il n'y a pas de construction neuve pour les personnes en situation de handicap.
Sachant que la demande est croissante.
Oui.
En ce qui a trait au programme d'adaptation de domicile, les conséquences possibles de la fin de logements adaptés pour les aînés autonomes.
Oui.
Donc oui, on parle des familles, on parle de logis accessibles, mais il y a aussi la question de garder l'autonomie à la maison pour les personnes aînées.
Oui, tout à fait. Bien, le programme, bon, comme vous le savez, il est en pleine révision présentement, le programme logement adapté et aîné autonome. Et puis là, nous, en fait, c'est plus un questionnement qu'on se demande parce que comme l'enveloppe du programme d'adaptation de domicile qui permet l'adaptation dans les appartements ou dans les maisons des personnes en situation de handicap, comme cette enveloppe-là n'a pas augmenté, même qu'elle a diminué, là, elle était à 28 millions en 2013-2014 et puis là, elle est à 25 millions. Là, on se demande qu'est-ce qui va se passer avec ce programme-là? Est-ce que le programme logement adapté aîné autonome qui est en pleine révision va s'effacer complètement et est-ce qu'on va transférer les personnes qui bénéficiaient de ce programme-là dans le programme PAD?
Mm-hmm.
Et si oui, est-ce qu'on va compenser au niveau du gouvernement? Est-ce qu'on va rajouter de l'argent dans le programme PAD? Parce que ça reste que il y a quand même une augmentation de la demande, la population est vieillissante, mais il reste toujours qu'il y a des personnes en situation de handicap qui vont en avoir de plus en plus. Là.
Oui, et justement, le PAD étant le programme d'adaptation à domicile, où on dénote quand même aussi beaucoup, une grande liste d'attente.
Oui.
Donc, c'est un peu en contradiction avec le fait, justement, qu'on annonce depuis déjà très longtemps un vieillissement de la population notoire.
Oui, et en plus, non seulement ça, mais en plus que le gouvernement a adopté en juin 2015 un plan 2015-2019 des engagements gouvernementaux pour accroître la participation sociale des personnes en situation de handicap. Là, on a ce plan-là du gouvernement, puis on se demande, mon Dieu, il y a des réductions dans les services à domicile, il y a des réductions de l'offre de logement accessible, il y a des réductions un gel de l'enveloppe dans le programme d'adaptation domiciliaire, mais on ne permet pas plus de participation sociale des personnes en situation de handicap. Pour nous, c'est un double discours, en fait. Il y a quelque chose qui est incohérent à l'intérieur de ça.
Mm-hmm. Il nous reste une petite minute. J'aimerais qu'on aborde tout de même, la lourdeur administrative pour les aides à la mobilité et les coupures aussi, ou les révisions de programmes, en fait, qui sont annoncées à ce niveau-là.
Oui, bon, donc en septembre dernier, la RAMQ a adopté des nouvelles directives de facturation des aides à la posture et des coussins de positionnement. Donc maintenant, les grilles tarifaires remboursent seulement les équipements de bas et de moyenne gamme. Donc si les ergothérapeutes veulent offrir un produit qui convient mieux, selon eux, aux besoins de la personne en situation de handicap, ils doivent remplir un formulaire d'autorisation ou plusieurs formulaires d'autorisation, dépendamment de ce que la RAMQ demande, les envoyer à la RAMQ, attendre le oui ou le non de la RAMQ avant de savoir s'ils peuvent ou non obtenir l'aide à la posture qu'ils ont demandé. Ça peut prendre une semaine, deux semaines, trois semaines, jusqu'à sept semaines et plus. En fait, la RAMQ ne se limite pas pour le délai de réponse. Huh. Pendant ce temps-là, la personne en situation de handicap, elle n'a pas l'équipement dont elle a besoin. Elle est inconfortable dans son fauteuil. Il y a une augmentation du risque de plaie. Et du même coup, il y a une frustration des fournisseurs d'aide à la posture aussi. Parce que en fait, eux, ils ont pas... leurs produits restent sur les tablettes et ils perdent de l'argent.
Et les besoins ne sont pas comblés. Alexandra Damour, vous êtes agente de défense en droit d'habitation, santé et services sociaux chez Execo. Merci beaucoup d'avoir éclairé cette rigueur budgétaire pour nous aujourd'hui.
Ça me fait plaisir, merci.